Chapitre 8. Sous la tente. 120 kilomètres séparaient Netherland du comté de Norris et de son champ de foire, ce qui nous laissait amplement le temps de parler. Mais Hugh et moi n'échangeâmes quasiment pas un mot jusqu'à Denver Est. Nous roulions juste en regardant le paysage. Si l'on exceptait la ligne de smog, toujours présente au-dessus d'Arvada, c'était une journée parfaite de fin d'été. Puis Hugh éteignit brusquement la radio qui nous diffusait un flot régulier de vieux standards en direct de la station KXKL et me dit « Ton frère Conrad, il a eu des effets secondaires indésirables après avoir été guéri de sa laryngite ou je sais plus quoi par le rêve ?»« Non, mais c'est pas étonnant. Jacobs m'a dit que la cure était bidon, un placebo, et j'ai toujours pensé qu'il avait dit la vérité. C'est probable en tout cas, il en était à ses débuts, rappelle-toi. » Quand son idée de grand projet se limitait encore à obtenir une meilleure réception télé. L'esprit de Connie avait juste besoin qu'on lui donne la permission d'aller mieux. La croyance est puissante, convint Hugh. La foi aussi. Regarde tous les groupes et chanteurs solos qu'on a en attente pour enregistrer des CD, alors que presque plus personne n'en achète. T'as fait quelques recherches sur C. Danny Jacobs? Plein. La fille de Georgia me file un coup de main. Moi aussi. J'en ai fait quelques-unes, et je parierais que beaucoup de ces guérisons ressemblent à celles de ton frère. Des gens qui souffrent de maladies psychosomatiques et qui décident d'être guéris quand Pasteur Danny les touche de ses anneaux magiques. Peut-être bien, mais après avoir observé Jacobs en action à Tulsa, j'eus la certitude qu'il avait appris le véritable secret du numéro qui cartonne. Donner au moins au plouc un bout de steak pour aller avec l'odeur de friture. Des femmes se déclarant délivrées de leurs migraines, des hommes s'exclamant que leur sciatique avait disparu. C'était bien beau tout ça, mais pas très visuel comme truc. Autrement dit, c'était pas les portraits à la foudre. Un certain nombre de sites internet, dont un intitulé « C'est Danny Jacobs, charlatan de la foi », dénonçait la fraude. Des centaines de gens y avaient posté des commentaires, prétendant que les tumeurs cancéreuses extraites par Pasteur Danny étaient des foies de porc ou des tripes de chèvre. Les appareils photo avaient beau être interdits pendant les offices religieux de Sedani, et les pellicules confisquées si l'un des placeurs surprenait quelqu'un en train de prendre des clichés, des tas de photos avaient quand même filtré. Beaucoup ne semblaient que corroborer les vidéos officielles postées sur le site de Sedani, mais sur d'autres, la gélatine luisante dans les mains de Pasteur Danny ressemblait bien à des tripes de chèvre. Je soupçonnais ces tumeurs d'être effectivement des fausses. Cette partie-là du spectacle sentait trop son forain de chez forain pour être autre chose qu'une arnaque. Mais cela ne signifiait pas que tout ce que faisait Jacobs était faux. Vous aviez là deux hommes embarqués dans une Lincoln Continental grande comme un paquebot pour en témoigner. Tu as eu des accès de somnambulisme et de mouvements involontaires, enchaîna Hugh. Ce qui, si j'en crois Doctissimo, s'appelle de la myoclonie. Transitoire dans ton cas. Sans compter la pulsion de te transpercer avec des trucs variés, comme si, dans ton subconscient, tu avais encore l'envie de te piquer. Tout à fait. Moi, j'ai eu des trous noirs pendant lesquels je continuais à parler et marcher, comme les trous noirs de l'alcool, mais sans l'alcool. Et des prismatiques, ai-je ajouté. Puis, il y a eu cette fille de Tulsa dont tu m'as parlé, qui a volé les boucles d'oreilles. Le cambriolage le plus couillu de l'histoire. Ouais. Elle croyait que les boucles lui appartenaient parce qu'elles figuraient sur le portrait qu'il avait pris d'elle. Je parie qu'elle écumait les boutiques de Tulsa pour retrouver la robe aussi. Est-ce qu'elle se rappelait avoir cambriolé le présentoir? J'ai secoué la tête. J'avais quitté Tulsa depuis longtemps lorsque Kathy Morse était passée au tribunal. Mais Brianna Donlin avait trouvé un bref entrefilet sur elle, en ligne. La petite Morse avait prétendu ne se souvenir de rien et le juge l'avait cru. Il avait ordonné une expertise psychologique et remis la gamine à la garde de ses parents. Après ça, elle avait disparu des radars. Hugh demeura silencieux un moment. Moi aussi. Nous regardions défiler le bitume. Maintenant que nous étions sortis des montagnes, il se déroulait tel un ruban à l'infini. Hugh finit par dire « Il fait ça pourquoi, Jamie? L'argent ?» Il passe quelques années sur le circuit forain, et puis un beau jour, il se dit « Bah, tout ça, c'est de la gnognotte. Je devrais passer à la prédication miraculeuse et à moi les gros sous » Peut-être, mais j'ai jamais eu l'impression que Charlie Jacobs était intéressé par les gros sous. Il n'a plus rien à faire de Dieu non plus. Sauf s'il a fait un virage à 360 degrés depuis le jour où il a envoyé péter son sacerdoce dans mon petit patelin du Maine. Et je peux te dire que j'ai pas repéré la moindre trace de foi en lui durant mon séjour à Tulsa. Sa femme et son fils, en revanche, ça comptait pour lui. T'as qu'à voir l'album photo que j'ai trouvé dans son camping-car, tellement feuilleté qu'il tombait presque en lambeaux. Et je suis sûr que ses expériences comptent encore beaucoup aussi. Avec son électricité secrète, il est comme crapaud avec son automobile. Je te suis pas, là. Obsédé, quoi. Si je devais avancer une hypothèse, je dirais qu'il a besoin d'argent pour continuer à mener ses diverses expérimentations. Beaucoup plus que ce qu'il pourrait gagner avec une attraction de fête foraine. Donc, la guérison n'est pas le but? C'est pas ça son objectif? Je ne pouvais pas l'affirmer. Mais non, je ne pensais pas que la guérison soit le but. C'était sûr. Se lancer dans le business du revival était autant un pied de nez cynique à la religion qu'il avait abjurée qu'un moyen d'amasser rapidement un paquet de fric sous forme d'offrande d'amour. Mais Jacobs m'avait pas guéri pour l'argent. Non, ça avait été le bon vieux geste chrétien du type qui a eu le cran de rejeter l'étiquette, mais pas les deux piliers de base du sacerdoce de Jésus, charité et miséricorde. « Je sais pas où il veut en venir, » j'ai dit. « Tu crois que lui, il sait ?» J'en suis persuadé. Cette électricité secrète, je me demande même s'il sait ce que c'est. Moi, je me demandais s'il se souciait même de le savoir, ce qui était plutôt flippant comme idée. La fête du comté de Norris avait lieu durant toute la deuxième quinzaine du mois de septembre. J'y étais allé quelques années auparavant avec une copine, et c'était vraiment une grosse fête. Comme on était en juin, le champ de foire était désert à l'exception d'une immense toile de tente. De manière assez appropriée, elle était dressée du côté où les baraques les plus glauques seraient installées lorsque la fête battrait son plein. Pipe-chose et loterie truquée. Les vastes aires de stationnement étaient remplies de voitures et de pick-up, dont beaucoup de vieilles camionnettes avec des autocollants sur les pare-chocs arrière, proclamant des trucs comme « Jésus est mort pour moi, je vis pour lui ». Couronnant le chapiteau et probablement boulonné à son mât central, se dressait une immense croix électrique imitant des néons de barbier, rouge, blanc, bleu, défilant en tournant indéfiniment. De l'intérieur nous parvenait le son d'une formation gospel amplifiée et les battements de mains rythmiques de l'assemblée. Les gens continuaient à affluer. La majorité d'entre eux grisonnaient, mais il y avait aussi pas mal de jeunes. « On dirait qu'ils s'amusent bien », commenta Hugh. « Ouais, la tournée du salut de Frère Amour. » Avec le vent frais qui soufflait des plaines, il faisait une température agréable de 18 degrés à l'extérieur de la tente, mais la chaleur devait bien avoisiner les 30 à l'intérieur. J'ai vu des fermiers en salopette et des ménagères en tablier, tous avec des visages empourprés et heureux. J'ai vu des hommes en costume et des femmes en tailleur chic, comme s'ils étaient venus directement de leur bureau de Denver. Il y avait une équipe d'ouvriers agricoles chicanos en jeans et chemises de travail, certains arborant ce qui ressemblait à des tatouages de prison sur leurs manches retroussées jusqu'au coude. J'ai même repéré quelques larmes incrustées à l'encre. La brigade des fauteuils roulants était installée au premier rang. L'orchestre, composé de 6 musiciens, se dandinait en envoyant des accords lascifs. Devant eux, en volumineuse toge de choristes lidvins, 6 nanas corpulentes se balançaient d'un pied sur l'autre. Davina Robinson et ses Gospel Robins. Leur sourire étincelait de dents blanches dans leur visage brun et elles claquaient des mains au-dessus de leur tête. Davina elle-même, micro sans fil à la main, s'avança en dansant, lâcha un cri musical style Aretha Franklin dans sa jeunesse et entonna « Je porte Jésus dans mon cœur !» « oh oui, je monte vers sa gloire, et vous le pouvez aussi. Je pourrais m'en aller aujourd'hui, car il a lavé mes péchés. Je porte Jésus dans mon cœur, oh oui. » Elle pressa les fidèles de se joindre à elle, ce qu'ils firent avec entrain. Hugh et moi prîmes place dans le fond. Le chapiteau, dont la capacité devait dépasser les 1000 personnes, ne disposait déjà plus de place assise. Hugh se pencha vers moi et me cria à l'oreille. « Écoute cet organe! Elle est formidable !» J'ai acquiescé et commencé à taper dans mes mains. Il y avait 5 couplets avec plein de « oh oui !» Et le temps que Davina ait fini, la sueur ruisselait sur son visage et même les fauteuils roulants s'y étaient mis. la soliste atteignit le point d'orgue sur un dernier ululement digne d'Aretha, micro brandi. L'organiste et le guitariste solo soutinrent ce dernier accord comme si leur vie en dépendait. Quand enfin ils lâchèrent l'affaire, elle leur gueula « Mes beaux amis, donnez-moi un Alléluia !» Ils le lui donnèrent. « Donnez-le-moi maintenant comme ceux qui connaissent l'amour de Dieu !» Ils le lui donnèrent comme ceux qui connaissent l'amour de Dieu. Satisfaite sur ce point, elle leur demanda s'ils étaient prêts pour un peu de Al Stamper. Ils lui firent savoir qu'ils étaient plus que prêts. L'orchestre revint à un rythme plus lent et ondoyant. Le public posa ses fesses sur les rangées de chaises pliantes. Un homme noir au crâne lisse entra d'un pas alerte sur scène, trimballant ses 150 kilos avec une délicieuse aisance. Hughes se pencha tout près de moi et put me glisser sans lever la voix. Il était avec les Vo-Lights dans les années 70. Maigre comme un clou à l'époque et une coupe afro comme un essaim d'abeille. Je le croyais mort, putain! Avec toute la coke qu'il s'est tapée, il devrait! Ce que Stamper confirma sur le champ. « J'étais un grand pécheur, » confia-t-il à l'assemblée. « Aujourd'hui, gloire à Dieu, je ne suis plus qu'un gros mangeur. » Rire général. Il rit aussi, puis reprit son sérieux. « Je fus sauvé par la grâce de Jésus et guéri de mes addictions par le pasteur Danny Jacobs. Un petit nombre d'entre vous se souvient peut-être des chansons profanes que je chantais avec les Vo-Lights, et un plus petit nombre encore se souvient peut-être de celles que je chantais quand j'ai entamé ma carrière solo. Je chante des airs différents aujourd'hui. Tous ces airs envoyés de Dieu qu'autrefois je rejetais. « Gloire à Jésus !» s'exclama quelqu'un dans la foule. « Tout à fait, mon frère. Louons son nom. Et c'est ce que je m'en vais faire. » Il entonna alors « Let the lower lights be burning », un cantique de mon enfance dont je me souvenais bien, d'une voix si profonde et sincère que j'en ai eu la gorge nouée. Le temps qu'il termine, la plupart des spectateurs, les yeux brillants, chantaient avec lui. Il interpréta deux autres chansons, la mélodie et l'accompagnement de la seconde ressemblant de manière suspecte à « Let's Stay Together » de Al Green, puis rappela sur scène les Gospel Robins. Elles chantèrent, il chanta avec elles. Ils firent joyeusement du bruit pour le Seigneur et nous excitèrent toute cette congrégation jusqu'à la divine frénésie et au ravissement en Jésus. Comme la foule se levait, battant des mains à se les enflammer, les lumières sous le chapiteau commencèrent à baisser, ne laissant qu'un spot éclatant de lumière blanche sur le côté gauche de la scène, par où entra C. Danny Jacobs. C'était mon Charlie, pas de doute, et le rêve de Hugh. Mais ce qu'il avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Son volumineux manteau noir, très semblable à celui que Johnny Cash portait sur scène, dissimulait en partie combien il avait maigri. Mais son visage émacié trahissait la vérité. D'autres vérités aussi s'y lisaient. Je pense que la plupart des gens qui ont subi des pertes majeures dans leur vie, de véritables tragédies, arrivent à un carrefour. Peut-être pas immédiatement, mais lorsque le choc se dissipe. Ce peut être des mois après, ce peut être des années. Et soit ils sortent expansés de l'expérience, soit ils en sortent contractés. Ça fait peut-être « New Age », je veux bien le croire, mais ça ne me gêne pas. Je sais de quoi je parle. Charles Jacobs s'était contracté. Sa bouche était une ligne pâle. Ses yeux bleus flamboyaient, mais ils étaient sertis d'un réseau de rides et paraissaient plus petits, comme occultés. Le jeune homme joyeux qui m'avait aidé à creuser des grottes dans Skull Mountain quand j'avais 6 ans, l'homme qui m'avait écouté avec tant de bonté quand je lui avais raconté comment Connie était devenu muet, cet homme-là ressemblait désormais à un ancien maître d'école de Nouvelle-Angleterre sur le point de battre avec des verges un élève indiscipliné. Puis, il a souri, et j'ai au moins pu espérer que le jeune homme dont j'étais devenu l'ami existait encore quelque part à l'intérieur de cet évangéliste crieur de foire. Ce sourire a illuminé tout son visage. La foule a applaudi, en partie de soulagement, je crois bien. Il a élevé les mains, puis les a abaissées, paume vers le sol. « Asseyez-vous, frères et sœurs. Asseyez-vous, filles et garçons. Recueillons-nous dans la fraternité de chacun envers chacun. » Tous s'assirent dans un grand souffle d'air et un froissement d'étoffe. Le chapiteau devint silencieux. Tous les yeux étaient braqués sur lui. je vous apporte une bonne nouvelle que vous avez déjà entendue. Dieu vous aime. Oui, chacun d'entre vous, ceux qui ont vécu des vies exemplaires et ceux qui se vautrent dans le péché. Il vous a tant aimé qu'il a donné pour vous son Fils unique. Jean, chapitre 3, verset 16. La veille de sa crucifixion, son Fils a prié pour que vous soyez protégés du péché. Jean, chapitre 17, verset 15. Lorsque Dieu corrige, lorsqu'il nous envoie fardeau et affliction, il le fait par amour. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ne peut-il lever ses fardeaux et afflictions dans le même esprit d'amour? Un cri exultant monta du rang des fauteuils roulants.
« Oui, gloire à Dieu !»«
Je me tiens devant vous, moi, errant sur la face de l'Amérique et réceptacle de l'amour de Dieu. M'accepterez-vous comme je vous accepte ?» Ils lui clamèrent que oui. La sueur ruisselait sur mon visage et sur celui de Hugh, et sur celui des gens tout autour de nous. Mais le visage de Jacobs était sec et brillant, alors que le projecteur qui l'éclairait devait chauffer encore davantage l'air autour de lui. Sans parler du manteau noir. « J'ai été marié, naguère, et j'ai eu un petit garçon, dit-il. Mais sa mère et lui ont eu un terrible accident. Ils se sont noyés. » Ce fut pour moi comme recevoir un seau d'eau froide en pleine figure. C'était un mensonge, alors qu'il n'y avait aucune raison de mentir là-dessus, du moins que je sache. Un murmure, presque un gémissement parcourut le public. La plupart des femmes pleuraient, et quelques hommes aussi. Je me suis alors détourné de Dieu, et je l'ai maudit dans mon cœur. J'ai erré dans le désert. Oh, c'était New York, Chicago, Tulsa, Joplin, Dallas, Tijuana. C'était Portland, Maine, et Portland, Oregon. Mais c'était du pareil au même, un désert sans fin pour moi. Je me suis éloigné de Dieu, mais jamais je ne me suis éloigné du souvenir de mon épouse et de mon petit garçon. J'ai renoncé aux enseignements de Jésus, mais jamais je n'ai renoncé à ceci. » Il brandit sa main gauche, exhibant un anneau d'or qui paraissait trop large et trop épais pour être une alliance ordinaire. « J'ai été tenté par des femmes. Naturellement, je suis un homme, et l'épouse de Poutiphar est toujours parmi nous. Mais je suis resté fidèle. « Gloire à toi, Seigneur !» lança une femme. Une qui s'imaginait sans doute savoir reconnaître l'épouse de Poutiphar si jamais elle voyait cette catin tentatrice en tenue de ménagère. Et puis un jour, après avoir repoussé une tentation plus sévère que les autres, plus séduisante que les autres, Dieu m'a envoyé une révélation, comme à Saul, sur le chemin de Damas. « La parole de Dieu !» s'écria un homme en levant ses mains vers le ciel, ou du moins vers le plafond de la tente. Dieu m'a dit que j'avais du travail et que mon travail consisterait à lever les fardeaux et afflictions d'autrui. Il est venu à moi en rêve et m'a dit de porter une deuxième alliance, une alliance qui signifierait mon mariage avec les enseignements de Dieu à travers sa sainte parole et les enseignements de son Fils, Jésus-Christ. J'étais alors à Phoenix. Je travaillais dans un spectacle forain impie. Et Dieu m'a dit d'aller marcher dans le désert sans nourriture ni eau, comme n'importe quel pèlerin de l'Ancien Testament. Il m'a dit que dans ces solitudes, je trouverais l'alliance de mon second et dernier mariage. Il m'a dit que si je restais fidèle à ce mariage, je répandrais un grand bien et serais réuni avec ma femme et mon fils au paradis, et notre vrai mariage serait à nouveau consacré par son saint trône, dans sa sainte lumière. D'autres cris et acclamations s'élevèrent. Une femme en tailleur de bureau de bonne coupe, col en beige et chaussures chic à talons plats, se laissa choir dans l'allée et se mit à témoigner en une langue qui ne semblait constituée que de voyelles. L'homme qui l'accompagnait, mari ou petit ami, s'agenouilla auprès d'elle, lui faisant un oreiller de ses mains, souriant tendrement, l'encourageant à poursuivre son intervention. « Il ne croit pas un mot de ce qu'il dit » ai-je articulé. J'étais abasourdi. Chaque mot est un mensonge. Ils doivent bien s'en rendre compte. Mais non, ils ne s'en rendaient pas compte, et Hugh ne m'avait pas entendu. Il observait, les yeux fixes, médusés. Le chapiteau était un tumulte d'allégresse au-dessus duquel s'élevait la voix de Jacobs, tonnant par-dessus les hosannas par la grâce de l'électricité et d'un micro sans fil. Toute la journée, j'ai marché. J'ai trouvé de la nourriture abandonnée dans une poubelle sur une aire de repos. J'ai trouvé une demi-bouteille de coca près du sentier et je l'ai bu. Alors Dieu m'a dit de quitter le sentier. Et alors que le crépuscule approchait et que de meilleurs randonneurs que moi ont trouvé la mort dans ces solitudes, j'ai fait ce qu'il me demandait. Tu devais bien être arrivé au fin fond de la banlieue résidentielle à ce moment-là, j'ai pensé. Peut-être carrément à North Scottsdale, où crèchent les Rupins. La nuit était noire et nuageuse. Pas une étoile ne brillait. Mais juste après minuit, les nuages se sont déchirés et un rayon de lune a brillé sur un tas de pierres. Je m'en suis approché et, dessous, j'ai trouvé ceci. Il brandit sa main droite. À son majeur était passé un autre large anneau d'or. Il y eut un tonnerre d'applaudissements et d'alléluia. J'essayais toujours de comprendre à quoi rimait tout cela et ne trouvais pas de réponse. Voilà des gens qui, quotidiennement, se servaient d'ordinateurs pour rester en contact avec leurs amis et se tenir au courant des nouvelles du jour. Des gens qui tenaient les satellites météo et les greffes de poumons pour acquis. Des gens qui comptaient vivre des vies de 30 à 40 ans plus longues que celles de leurs arrière-grands-parents. Et ils étaient là, à gober une histoire à côté de laquelle le Père Noël et la petite souris paraissaient d'un réalisme grossier. Ils leur fourguaient des conneries et ils adoraient ça. J'avais l'idée consternante que lui aussi adorait ça, ce qui était pire. Ce n'était pas là l'homme que j'avais connu à Harlow, ni celui qui m'avait recueilli cette nuit-là à Tulsa. Quoique, quand je pensais à la manière dont il avait traité le père de Cathy Morris, ce brave fermier stupéfait et bouleversé, je devais admettre que cet homme-là était déjà en devenir. Je ne sais pas s'il déteste ces gens, ai-je pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il les méprise. Peut-être pas. Peut-être était-il juste devenu indifférent. Sauf au contenu du panier de quête en fin de spectacle, évidemment. Pendant ce temps, il poursuivait son témoignage. L'orchestre s'était remis à jouer tandis qu'il parlait, chauffant encore un peu plus la salle. Les Gospel Robins se balançaient et tapaient dans leurs mains, et le public les imitait. Jacobs raconta ses deux premières guérisons hésitantes à l'aide des alliances de ses deux mariages, le sacré et le profane. Sa prise de conscience que Dieu souhaitait le voir apporter son message d'amour et de guérison à un public plus large. Ses déclarations répétées, à genoux et l'âme écartelée, qu'il en était indigne. Dieu répondant que jamais il ne lui aurait confié les alliances si cela avait été vrai. À l'entendre, on aurait cru que Dieu et lui avaient tenu de longs conciliabules sur ces questions dans quelque fumoir céleste, tirant peut-être sur leur pipe tout en contemplant les collines vallonnées du paradis. Je détestais la mine qu'il avait à présent, ce visage anguleux de maître d'école et l'éclat bleu et féroce de ses yeux. Je détestais le manteau noir aussi. Les forains appellent ce genre de paletot une entourloupe-lande. J'avais appris toutes ces formules en travaillant la fantasmagorie de Jacobs, les portraits à la foudre au parc d'attractions de Bells. « Prions ensemble, voulez-vous » proposa-t-il. Et il tomba à genoux avec ce qui me parut être une brève grimace de douleur. « Rhumatisme ? Arthrite ? Pasteur Danny, guéris-toi toi-même, je me suis dit. » L'assemblée s'agenouilla dans un nouveau froissement d'étoffe et de murmures exaltés. Ceux d'entre nous qui se tenaient debout dans le fond firent de même. Je faillis résister, même pour un méthodiste renégat comme moi. Ce numéro empestait la farce blasphématoire, mais pour rien au monde, je n'aurais voulu attirer l'attention comme je l'avais fait à Tulsa. « Il t'a sauvé la vie, je me suis dit. N'oublie jamais ça. » « Exact. » Et les années écoulées depuis avaient été de bonnes années. J'ai fermé les yeux, non pour prier, mais sous le coup de la confusion. Je regrettais d'être venu, mais je n'avais pas vraiment eu le choix. Et je regrettais aussi d'avoir déjà demandé à Georgia Donlan les coordonnées de son informaticienne de fille. Trop tard maintenant. Pasteur Danny pria pour les présents. Pria pour les malades et les prisonniers, qui qui aurait souhaité être ici avec nous, mais ne le pouvait pas. Pria pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Pria pour les États-Unis d'Amérique et pour que Dieu pénètre leurs dirigeants de sa sagesse. Puis il passa aux choses sérieuses, priant Dieu d'accomplir des guérisons par ses mains et ses alliances d'or, puisque telle était sa volonté. Et pendant ce temps, l'orchestre continuait à jouer. « Sont-ils parmi vous ceux qui souhaitent être guéris ?» demanda-t-il en se remettant péniblement debout avec une nouvelle grimace. Al Stamper s'avança pour lui venir en aide, mais de la main, Jacobs fit signe à l'ex-chanteur de soul de reculer. « Sont-ils parmi vous ceux qui, chargés de lourds fardeaux, souhaitent les déposer et, chargés d'affliction, souhaitent s'en libérer ?» La congrégation confirma, bruyamment, que tout cela était. Les fauteuils roulants et les malades chroniques des deux premiers rangs le dévoraient des yeux, en extase. Idem pour ceux qui étaient assis au rang juste derrière, beaucoup d'entre eux hagards et paraissant à l'article de la mort. Il y avait des bandages et des visages mutilés, des masques à oxygène et des membres décharnés, des béquilles et des corsets. Il y avait ceux qui tremblaient et tressautaient de façon incontrôlée, tandis que leur cerveau, victime d'AVC, dansait sous leur crâne des gigues enragées. Avec la délicatesse d'une brise printanière soufflant sur le désert, Davina et les Gospel Robins se mirent à chanter « Jesus says, come forth ». Comme par magie, apparurent des placeurs en jeans repassés, chemises blanches et blazers verts. Certains commencèrent à organiser dans l'allée centrale la file d'attente des candidats à la guérison. D'autres blazers verts, beaucoup d'autres, circulaient parmi la foule avec des paniers de collecte si grands qu'on aurait dit des paniers à linge. J'entendis tinter des pièces, mais c'était un tintement léger, sporadique. La plupart des gens jetaient des billets, ce que les forains appellent la carotte. La parleuse en langue se faisait reconduire à sa chaise pliante par son mari ou petit ami. Ses cheveux défaits pendaient autour de son visage congestionné, exalté. Sa veste de tailleur était salie. Moi aussi, je me sentais sali. Mais on arrivait au moment auquel je voulais vraiment assister. De ma poche, j'ai sorti un carnet et un bic. J'avais déjà noirci plusieurs pages de notes issues de mes propres recherches et d'autres gracieusement fournies par Brianna Donlan. « Qu'est-ce que tu fais ?» me demanda Hugh à voix basse. J'ai secoué la tête pour le faire taire. Les guérisons allaient commencer, et j'avais regardé assez de vidéos sur le site de Pasteur Danny sur Internet pour savoir comment ça se déroulait. « Il fait ça à l'ancienne », m'avait dit Bree, après en avoir regardé plusieurs. Une femme en fauteuil roulant se propulsa en avant. Jacobs lui demanda son nom et approcha le micro de ses lèvres. D'une voix tremblante, elle déclara s'appeler Rowena Mentor et être maîtresse d'école, venue tout spécialement depuis Des Moines. Elle souffrait d'une terrible arthrite et ne pouvait plus marcher. J'ai noté son nom dans mon carnet sous celui de Mabel Jurgens, guérie d'une blessure à la moelle épinière un mois auparavant à Albuquerque. Jacobs laissa choir son micro dans la poche de son entourloupe lande et saisit la tête de Rena entre ses mains, lui pressant ses anneaux contre les tempes et le visage contre sa poitrine. Il ferma les yeux. Ses lèvres remuèrent en une prière silencieuse, où les paroles de « Dansons la capucine » pour ce que j'en savais. Soudain, Rowena fut secouée de spasmes. Ses mains voltigèrent en l'air et battirent-elles de blanches ailes d'oiseau. Elle regardait fixement Jacobs, les yeux écarquillés de stupeur ou du contre-coup d'une décharge électrique. Puis, elle se leva. La foule brailla « Alléluia !» Comme Rowena prenait Jacobs dans ses bras et couvrait son visage de baisers, plusieurs hommes lancèrent leurs chapeaux en l'air, chose que je n'avais vue que dans les films, jamais dans la vraie vie. Jacobs la prit aux épaules, la tourna vers les spectateurs, tous éberlués, moi y compris, et plongea la main dans sa poche pour récupérer son micro avec l'aisance expérimentée d'un vieux rabouin de baraque foraine. « Marchez jusqu'à votre époux, Rowena !» tonna Jacobs dans son micro. « Marchez vers lui et glorifiez notre Seigneur Jésus à chacun de vos pas. Glorifiez Dieu à chacun de vos pas. Glorifiez son saint nom. » En larmes, bras tendu pour garder l'équilibre, elle trottina jusqu'à son mari. Juste derrière, un placeur en blazer vert poussait son fauteuil roulant au cas où ses jambes l'auraient lâché, mais elle tint bon. Cela dura pendant une heure. La musique ne s'interrompait jamais, pas plus que les placeurs en blazer vert chargés des profonds paniers de quête. Jacobs n'a pas guéri tout le monde, mais je peux vous dire que son escouade de quêteurs a plumé tous ses ploucs jusqu'aux découvertes bancaires. Beaucoup, parmi la brigade des fauteuils roulants, furent incapables de se lever après avoir été touchés par les alliances sacrées, mais une demi-douzaine y parvinrent. J'ai noté tous les noms, barrant au fur et à mesure ceux qui semblaient toujours aussi irrécupérables après le traitement de Jacobs qu'avant. Une femme atteinte de cataracte déclara qu'elle voyait, et sous les lumières éclatantes, le voile laiteux qui recouvrait ses yeux paraissait réellement avoir disparu. Un bras tordu fut redressé. Un bébé vagissant, atteint d'une quelconque malformation cardiaque, cessa de pleurer comme si un bouton avait été tourné. Un homme qui s'était avancé sur des béquilles, la tête baissée, arracha sa Minerve et envoya ses béquilles promener. Une femme souffrant d'insuffisance respiratoire grave arracha son masque à oxygène. Elle annonça qu'elle pouvait respirer librement et que le poids sur sa poitrine s'était envolé. Beaucoup de ces guérisons étaient impossibles à mesurer et il était fort probable que certaines aient été des coups montés. L'homme aux ulcères qui déclara qu'il n'avait plus mal à l'estomac pour la première fois depuis 3 ans, par exemple. Ou la femme au diabète, une jambe amputée sous le genou, affirmant pouvoir de nouveau sentir ses mains et les orteils qui lui restaient. 2 migraineux chroniques attestant que leur douleur avait disparu, gloire à Dieu, totalement disparu. Quoi qu'il en soit, j'ai noté tous les noms et, quand il le précisait, les villes et états d'où ces gens venaient. Bree Donlan était douée, elle s'intéressait au projet et je voulais lui donner autant de matière que possible. Jacobs ne retira qu'une seule tumeur ce soir-là et je n'ai pas jugé bon de relever le nom de ce patient, parce que j'ai bien vu l'une des mains de Jacobs plonger dans son entourloupe-lande juste avant d'appliquer ses anneaux magiques. Et ce qu'il présenta au public, subjugué et euphorique, ressemblait diablement, selon moi, à du foie de veau de supermarché. Il le remit à l'un des placeurs en blazer vert qui le fourra dans un bocal et s'empressa de le soustraire à la vue. Enfin, Jacobs a déclaré le toucher divin épuisé pour la soirée. Question toucher divin, je sais pas, mais lui avait certainement l'air exténué. Mort de fatigue, pour tout dire. Son visage était toujours sec, mais le devant de sa chemise lui collait à la peau. En s'éloignant à reculons de la rangée de fidèles qui se dispersaient à contre-cœur, déçus de n'avoir pas eu leur chance, beaucoup le suivraient sûrement sur le lieu de son prochain revival, il trébucha. Al Stamper était là pour le retenir, et cette fois, Jacobs accepta son aide. « Prions, dit-il. » Il reprenait péniblement son souffle et je n'ai pu m'empêcher de craindre qu'il ne s'évanouisse ou nous fasse un arrêt cardiaque, là, en plein milieu de la scène. « Offrons nos remerciements à Dieu, comme nous lui offrons nos fardeaux. Après quoi, frères et sœurs, nous nous dirons au revoir en chanson avec Al et Davina et ses Gospel Robins. » Cette fois, il ne prit pas la peine de s'agenouiller, mais l'assemblée, oui. Y compris quelques-uns qui n'auraient probablement jamais espéré se réagenouiller dans leur vie terrestre. Il y eut de nouveau ce froissement d'étoffe qui faillit couvrir les hoquets à côté de moi. Je me suis retourné juste à temps pour voir le dos de la chemise écossaise de Hugh disparaître entre les rabats à l'entrée de la tente. Je l'ai trouvé plié en deux sous un réverbère, à quelques mètres de là, étreignant ses genoux. La nuit avait considérablement fraîchi, et la flaque à ses pieds fumait légèrement. Lorsque je me suis approché, un nouveau spasme l'a secoué et la flaque s'est agrandie. Quand j'ai touché son bras, il a sursauté et trébuché, manquant de peu s'étaler dans son propre vomi, ce qui nous aurait valu un voyage de retour agréablement parfumé. Le regard paniqué qu'il a tourné vers moi était celui d'un animal piégé par un incendie de forêt. Puis il s'est détendu et redressé en sortant un bandana de rancher démodé de sa poche arrière. Il s'est essuyé la bouche, sa main tremblait. Son visage était blanc comme la mort. C'était probablement dû à la lumière crue du réverbère, mais pas seulement. Désolé, Jamie, tu m'as fait peur. J'avais remarqué. C'est la chaleur, je crois. Fichons le camp d'ici. Qu'est-ce que t'en dis? Prenons la foule de vitesse. Il est parti en direction de la Lincoln. J'ai effleuré son coude. Il s'est écarté. Non, c'est pas exactement ça. Il s'est rétracté. C'était quoi en vrai? Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il a juste continué à marcher vers le fond du parking où était garé son paquebot de croisière fabriqué à Détroit. J'ai marché à côté de lui. Arrivé à la voiture, il a posé sa main sur le capot perlé de rosée, comme pour y puiser du réconfort. C'était un prismatique, le premier depuis très très longtemps. Je l'ai senti venir pendant qu'il guérissait le dernier, le gars qui disait être paralysé des membres inférieurs depuis un accident de voiture. Quand il s'est levé de son fauteuil, tout est devenu plus net, tout est devenu plus clair. Tu vois? Non, je ne voyais pas, mais j'ai fait signe que oui. Derrière nous, on entendait la congrégation taper joyeusement des mains en chantant « How I love my Jesus » à plein poumon. Et puis, quand le rêve a commencé à prier, les couleurs, il m'a regardé, sa bouche tremblait. Il faisait 20 ans de plus. Elles étaient tellement plus vives. Elles ont tout décomposé. Il a avancé la main et m'a agrippé par la chemise si fort que 2 boutons ont sauté. C'était l'étreinte d'un homme qui se noyait. Il avait les yeux dilatés et horrifiés. Et puis, tous les fragments se sont recomposés, mais les couleurs sont restées. Elles dansaient et ondulaient comme une aurore boréale une nuit d'hiver. Et les gens, c'était plus des gens. C'était quoi, Hugh? Des fourmis, murmura-t-il. Des fourmis géantes, du genre qui doit vivre que dans les forêts tropicales. Des brunes, des noires, des rouges. Elles regardaient avec des yeux morts, et ce poison qu'elles sécrètent, l'acide formique, dégoulinait de leur gueule. Il prit une longue inspiration tremblante. « Si jamais je revois un truc comme ça, je me tire une balle. »« Mais c'est fini maintenant, hein ?»« Oui, c'est fini. Dieu merci. » Il sortit ses clés de sa poche et les laissa tomber par terre. Je les ai ramassées. « Je vais nous ramener. »« Oui, on va faire ça. Tu nous ramènes. » Il a commencé à contourner la voiture, puis m'a regardé. « Toi aussi, Jamie. Je me suis retourné vers toi et j'étais debout à côté d'une fourmi géante. Tu t'es retourné, tu m'as regardé. Non, Hugh, j'ai à peine remarqué que tu sortais. » Il n'a pas paru m'entendre. Tu t'es retourné, tu m'as regardé, et je crois que t'as essayé de sourire. Il y avait des couleurs tout autour de toi, mais tes yeux étaient morts, comme ceux des autres, et ta bouche était remplie de poison. Il n'a plus rien dit. Jusqu'à ce que nous soyons revenus devant le grand portail en bois à l'entrée de Wolfjaw. Celui-ci était fermé et j'ai ouvert ma portière pour aller l'ouvrir. « Jamie !» Je me suis retourné pour le regarder. Son teint avait repris un peu de couleur, mais bien peu. « Ne prononce plus jamais son nom devant moi. Jamais. Sinon, c'en est fini pour toi ici. Compris ?»« Oui, compris. Mais ça ne voulait pas dire que j'allais lâcher l'affaire. »